que ça l'entraîne dans nos vies que de vivre dans un monde aussi dur, aussi rempli de méchanceté, de mauvaises choses, et même des ténèbres où là, on voit la présence de l'ennemi faire du ravage dans la vie des personnes et dans la vie de famille. Mais on voit aussi, tout à coup, émerger la lumière. Et c'est ça, l'Évangile. Hein? L'Évangile est venu dans un monde où il y avait de la douleur, dans un monde où il y avait du péché, dans un monde où il y avait du trouble, dans un monde où il y avait de la souffrance, dans un monde qui n'était pas idéal. Le jardin d'Éden n'existe plus. Certains essaient de le recréer, de se recréer un petit jardin d'Éden sur la terre. Mais ça prend pas grand-chose pour que tout à coup la réalité du monde dur, cruel dans lequel on vit, nous rattrape facilement. Et dans ce sens, en découvrant l'histoire de cette femme, qui est une personne d'exception, une femme d'exception, et même une maman d'exception, en découvrant son histoire, je suis certain que vous allez être interpellé par le cœur de cette femme, son cœur de maman, et comment son histoire est touchante. Et je suis content qu'on la retrouve dans les évangiles, entre autres dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu. Je vais prier, puis ensuite je vais vous donner un petit peu un arrière-plan de Phénicia, d'où elle vient. C'est quel genre de vie elle avait avant que le récit commence concernant sa rencontre avec Jésus. On va prier avant. Merci Seigneur Jésus, merci de ce que ta parole, elle est vivante, merci de ce que ta parole parle d'histoire, comme cette femme qui était une mère et qui vivait un grand désespoir, qui vivait une grande peine, une grande souffrance. Et un jour, elle a entendu parler de toi. Elle a entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui était différent des autres. Elle a entendu parler de quelqu'un qui transformait la vie des gens. Elle a entendu de quelqu'un qui avait même la puissance sur le monde des ténèbres. Elle a entendu quelqu'un qui était authentique. Quelqu'un qui parlait selon la vérité. Quelqu'un qui aimait sans aucune distinction. Quelqu'un qui accueillait ceux qui souffraient, ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient considérés comme étant des mauvaises personnes, comme étant déchus de la grâce de Dieu. Mais que cet homme accueillait les pécheurs, guérissait les lépreux, libérait des femmes possédées de plusieurs démons, et transformait des vies, restaurait des couples, guérissait des familles entières. Et elle s'est dit en elle-même, « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? » Merci Seigneur pour cette femme. Merci pour son cœur. Son cœur est spécial. Et ouvre nos yeux ce matin pour qu'on voit à quel point elle est spéciale et combien son cœur était spécial et pourquoi son cœur était un cœur d'exception, une femme d'exception. Rencontre-nous. Et ce matin, Seigneur, je te prie particulièrement pour les femmes qui vont entendre ce message ici ou ailleurs, pour les mamans, que tu puisses, Seigneur, les rencontrer. Et peut-être même les mamans qui présentement souffrent devant la souffrance de leur enfant et qui n'ont personne vers qui se tourner ou déverser leur peine et leur souffrance. Que, Seigneur, ce matin, ces mamans puissent entendre ta voix, Jésus. Et savoir que tu es là, que tu les comprends, que tu les aimes et que tu compatis avec leur souffrance. et leur situation présentement. Oh Jésus, fais entendre ta voix ce matin. C'est vers toi qu'on se tourne. En ton nom. Amen. Amen. Phénicia. Cette femme vivait avec sa petite famille dans une région côtière à proximité de la Galilée et de la Judée. En fait, ça se trouvait être au nord et à l'ouest et aux abords de la mer Méditerranée. Alors, si vous aviez une carte biblique, vous pourriez voir à peu près la région dont je suis en train de parler. Elle était aussi gréco-romaine, non pas de choix, mais par contrainte. Ses ancêtres étaient d'origine cananéenne. Ça vous dit quelque chose? Et quand on connaît l'histoire de l'Ancien Testament, on sait que la terre promise était justement à Canaan. Selon la Bible, ce peuple était immoral, idolâtre, violent, conquérant et finalement eux-mêmes conquis, donc humiliés. Ils avaient été humiliés dans leur histoire. On leur reconnaissait des talents évidents dans les activités marchandes, la navigation et la qualité des productions d'artisans que le pays avait en grand nombre. Leur spécialité était les tissus teints en pourpre, tout comme l'était d'ailleurs la couleur tannée de leur peau. Ce peuple était polythéiste, c'est-à-dire qu'il adorait plusieurs dieux, plusieurs divinités, dont ils se disaient les serviteurs et cherchaient naturellement leur bienveillance. Les divinités étaient souvent liées à des éléments de la nature ou du cosmos. Par exemple, Baal est vu comme étant le dieu de l'orage. Il y avait également le dieu du ciel, le dieu de la lune et le dieu du soleil. D'autres dieux étaient liés à des activités et à la vie humaine. Par exemple, Rechef était le dieu de la guerre et de la peste. Cusor était le dieu des artisans, donc tous les artisans l'adoraient. Horon était le dieu protecteur contre les morsures de serpents. Ou encore, il y avait le dieu guérisseur, Eshmoun. J'ai jamais entendu parler d'Eshmoun, mais c'est son nom. Les divinités féminines étaient souvent liées à la fécondité ou à l'amour. Et on en connaît comme Astarté, on a déjà vu ça dans les Écritures, Anat, qu'on entend moins, et Tanit, qui étaient quand même les plus populaires. Et là, ici, c'est particulier parce que leurs rituels, certains de leurs rituels, impliquaient parfois des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Certains de ces sanctuaires, érigés en plein air et où sont disposées de nombreuses urnes, des stélés et une chapelle, ont été retrouvés sur les sites d'Occident par des fouilles archéologiques, que ce soit en Afrique du Nord, en Sicile ou en Sardaigne. Les urnes renfermaient encore des restes incinérés de jeunes enfants et d'animaux, et surtout ici, c'était des agneaux qui étaient sacrifiés. Et les temples d'Astarté semblaient également avoir compris des prostituées des deux sexes, où là, les gens, à travers des activités sexuelles, étaient aussi en communion avec les dieux de la sexualité. Donc, tout un arrière-plan. On sait que Phénicia ne connaissait pas personnellement le Dieu d'Israël, Yahweh, ni les Écritures saintes, ni les commandements de Dieu. Ça ne faisait pas partie de leur culture. C'était les Juifs qui avaient Yahweh comme Dieu, les Saintes Écritures, le Temple et les commandements de Dieu. Mais elle avait sûrement entendu parler que les Juifs étaient très croyants et très différents des autres nations, étant quand même à proximité du peuple d'Israël. Et elle savait que les Juifs étaient monothéistes, qui était vraiment une particularité unique à la nation d'Israël, d'adorer un seul Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Et il n'y avait aucune représentation, aucune image, aucun culte voué à des choses qui avaient une représentation quelconque de la terre ou du ciel et ainsi de suite. C'était Yahweh, c'était le Dieu unique, le Dieu qui s'était fait connaître à Abraham, Isaac et Jacob et que Moïse avait été son prophète. Mais une chose qu'on sait, selon le texte que je vais lire aussi tantôt, c'est qu'elle avait entendu parler de Jésus. La première notion qu'on a, c'est dans Marc 3, 7 à 8, et ça, c'est avant même que Jésus la rencontre, parce que la popularité de Jésus était tellement grandissante en Palestine que même des gens de son coin sont allés voir ce Jésus, ce nouveau prophète qui était en ville et qui apparemment était puissant en parole, non, inverse, était puissant en œuvre et en parole. Et l'ordre ici est quand même important. Jésus agissait et aussi enseignait. Et ses œuvres étaient en train de refléter qu'il était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, ça attirait l'attention, et même des gens de son coin, de son pays, de son peuple, sont allés aussi en Palestine pour voir et entendre et constater qui était Jésus. Et on voit ça dans Luc 24, 19, que Jésus avait cette réputation d'être un prophète puissant en œuvre et en parole. Maintenant, on va aller au récit biblique lui-même, qui se trouve à être à la fois dans Marc 7, 24 à 30 et Matthieu 15, 21 à 28. Donc, il y a deux textes parallèles. Et pourquoi je les utilise les deux? C'est parce que Matthieu donne certains détails que Marc ne donne pas et Marc donne d'autres détails que Matthieu ne donne pas. Et sur certains détails, les deux sont en train de dire exactement les mêmes informations ou les mêmes choses. Donc, ici, pour avoir un récit un peu plus complet, j'ai mis les deux. Et si vous voyez, j'ai des choses qui sont en italique, j'ai des choses qui sont soulignées et j'ai des choses qui sont en gras. Alors, les choses qui sont en italique, ils sont communs aux deux évangiles. Les deux parlent exactement de ce qui est mentionné dans le texte. Lorsque c'est en souligné, c'est seulement Marc, et lorsque c'est en gras, c'est seulement Matthieu. Ça va-tu? Donc, souligné, c'est les deux. Excusez-moi. Italique, c'est les deux. Souligné, c'est Marc. Et en gras, c'est Matthieu. Ça va? En italique, c'est qui? Les deux. En gras? Matthieu. Et souligné? Marc. Non, Marc. Alors, donc, on commence avec ce que les deux ont mentionné. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Et là, ici, Matthieu rajoute, et de Sidon. Ici, seulement Marc. Non, souligné, c'est seulement Marc. Ouais, là, ce qui s'en vient, c'est souligné. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. Donc ici, il y a quelque chose d'intriguant, là. Donc, Jésus s'en va dans cette région-là, puis il ne veut pas que personne le sache. Il ne veut pas, autrement dit, passer, être connu. Il veut plutôt passer incognito. Verset 25, encore ici, seulement Marc. En effet, à peine était-il arrivé, et là, les deux disent qu'une femme, et là, ici, Matthieu rajoute qu'elle est cananéenne, qui avait entendu parler de lui. Alors, voyez ici, Marc souligne qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus. On ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, mais ce qui est important, c'est qu'elle a certaines informations sur Jésus. Lesquelles? On va voir un peu dans sa façon d'aborder Jésus. On a un peu de référence ici. Et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais. En noir foncé, elle vint vers lui et se mit à crier. Et là, on voit ici, « Seigneur! » « Fils de David. » Donc, c'est étonnant pour une cananéenne, là. Une païenne, une syro-phénicienne, d'où son nom Phénicia. Elle crie en voyant Jésus, « Seigneur! » Donc, elle reconnaît qu'il est un rabbin, qu'il est un seigneur, Et là, il rajoute « fils de David ». Donc ici, « fils de David » a quand même une connotation, surtout dans Matthieu, une connotation qui est liée à la royauté de Jésus, au fait qu'il est lié à la lignée messianique de David. Voyez, donc il y a quand même une connaissance qu'elle est en train de confesser, de reconnaître concernant Jésus. Et là, elle dit « aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon ». C'est Matthieu qui donne ce détail-là, qu'elle est cruellement tourmentée. Donc, elle souffre, sa fille souffre. Et on ne sait pas quel âge qu'elle a. On sait que c'est une fillette, donc elle ne doit pas être tellement âgée, peut-être au début de l'adolescence, mais on n'a pas d'indication précise sur son âge, mais on sait qu'elle souffre terriblement, elle est cruellement tourmentée. Alors, comment ça se manifeste? Le texte ne le dit pas. Mais il y a de la souffrance. Et quand un enfant souffre, qui souffre avec l'enfant? La maman. Et plus un enfant souffre, plus la maman souffre. Et une maman, je ne connais pas de maman qui ne dirait pas « je voudrais souffrir à la place de mon enfant. Je voudrais être à la place de mon enfant qui est en train de souffrir. » Alors, cette maman-là, c'est évident qu'elle souffre aussi avec son enfant. Mais regardez ici la réaction de Jésus. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Wow! Et là, les disciples en rajoutent, ils s'approchent de Jésus, ils lui disent, « Ah, renvoie-les! » Il me semble que je les vois là, comme ça. « Renvoie-les, car elles ne cessent de nous casser les oreilles! » C'est ça qui c'est version québécoise, là. « Elles ne cessent de crier derrière nous, elles nous cassent les oreilles! » Plus capable de l'entendre. Fait qu'on peut avoir un peu un aperçu de la scène de ce qui est en train de se passer. Cette femme-là, elle n'est pas en train d'être juste dire, s'il vous plaît, hein? Est-ce que je peux avoir l'attention de Jésus? Cette femme crie et crie et crie et ne cesse de crier. Elle veut l'attention de Jésus. Elle a entendu parler de lui. Elle veut l'attention de Jésus. Plus notre souffrance est grande, plus nos cris sont profonds, forts, avec intensité, avec urgence, n'est-ce pas vrai? Plus on est conscient de notre souffrance, plus on fait comme elle était en train de faire. Ce à quoi elle répondit, alors Jésus ici répond aux disciples, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Et ça, c'est Matthieu encore là qui donne ce détail-là. Marc n'en parle pas. « Mais la femme vint se jeter à ses pieds, se prosterner devant lui. » Verset 26, « C'était une femme païenne, originaire de Syro-Phénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. » Et ici, le mot qui est là, ou le verbe qui est là pour supplier, c'est « elle ne cessa de demander ». Donc, c'est vraiment ici, c'est pas une fois qu'elle a demandé ça, mais elle a constamment demandé. Elle était insistante, c'est ça qu'on peut voir ici dans le mot qui est utilisé. Jésus lui dit « laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable ou juste de prendre le pain des enfants pour le jeter à qui? Aux petits chiens. Maintenant, là, entre vous puis moi, puis la boîte à bois. Hey! Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Il semble que j'aurais dit, ouch! Hey! Ouch! Il est en train de la traiter de quoi? Hein? Les chiens. Au moins, c'est pas des chiens sauvages, là, les chiens errants. Ici, c'est comme les chiens, c'était les chiens domestiques. Les chiens de maison, un peu comme on a aujourd'hui. Mais encore, il faut comprendre que les petits chiens, à l'époque, n'étaient pas comme les petits chiens aujourd'hui. Ils n'avaient pas de la SPCA, c'est ça? SPCA? Tu sais, les chiens aujourd'hui, les petits chiens, les animaux, on les traite comme des membres de la famille. N'est-ce pas? Les chiens aujourd'hui, on est très, très, très attachés à eux. chien ou chat ou ben d'autres animaux, là, il y a un attachement très grand. Mais à l'époque, là, c'était vraiment pas la priorité. Mais pour une chose plus, si on voit même dans les pays sous-développés, là, souvent les animaux sont pas traités aux petits oignons. Pourquoi? Ben écoute, on a de la misère à manger 3 repas par jour, là. Fait que les animaux de compagnie, là, comprenez, c'est vu vraiment comme pas aussi, en tout cas, pas aussi valable que ça l'est aujourd'hui. Et là, je suis pas en train de porter un jugement de valeur si aujourd'hui on aime trop les animaux pour autant. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis juste en train de dire que le contexte culturel, là, c'était quand même que les petits chiens de maison, c'était quand même des chiens de maison. Puis ici, il y a un principe important que Jésus est en train de faire ressortir. Puis c'est une parabole aussi en même temps que Jésus est en train de donner à cette femme-là en disant « les enfants d'abord et les petits chiens après ». Sinon, c'est pas convenable. On peut pas donner aux petits chiens ce qui appartient aux enfants. On va regarder ça aussi plus en détail. Mais voyez un peu, c'est quand même une réponse qui, à première vue, semble être une insulte que Jésus est en train de donner à cette femme. Mais regardez la réponse qu'elle donne au verset 28. C'est pas fantastique? Ah, j'ai-tu? Ah, je suis pas rendu là. Ah oui, c'est vrai, il y a un autre diapo. Non? Y'a-tu un autre diapo? Ah, il était-tu correct? OK. Parce que quelqu'un l'a avancé? Ah, vous êtes donc bien gentil. C'est bon, parce que quelqu'un m'a fait signe d'avancer, puis en tout cas, c'est correct. Super. Verset 28. C'est la femme qui répond. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et regardez Jésus de répondre, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et ça, c'est Matthieu qui dit ça ici. « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Marc lui dit, « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Et là, sur l'heure même, sa fille fut guérie, Matthieu nous dit. Marc lui dit, « Elle rentra chez elle et elle trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. » Qu'est-ce qui manque dans le texte, là? Il manque de quoi ici, là? Trouvez-vous pas? Moi, quand j'ai lu ça, il dit, « Il manque de quoi? » Comment ça fait qu'il, ni Matthieu, ni Marc ou Luc auraient pu en parler ou il l'a pas mentionné? Pourquoi il l'a pas mentionné? Je ne sais pas, mais il est pas là dans le texte. Qu'est-ce qui manque, là? À la fin, ici, qu'est-ce qui manque? Hein? Comment qu'elle a réagi quand elle est arrivée à la maison puis elle a vu que sa fille était guérie, libérée? Comment vous auriez réagi, vous, maman? Quand votre fille était dans la souffrance, cruellement tourmentée, et là vous arrivez, puis elle est toute joyeuse, toute posée, toute relaxe, elle vous attend, puis elle dit, « Bonne fête, maman. Je ne souffre plus. » Hein? Comment vous auriez réagi? Yeah! Woo! Fantastique! Hein? N'est-ce pas ça? Ou partir à pleurer? Moi, je sais que ma femme aurait parti à pleurer. Je suis sûr de ça. Elle aurait parti à pleurer, puis là, elle serait venue me voir. Benoît, tu sais pas quoi, Benoît? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Benoît, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Quoi? Dis-moi-le. Oh, Benoît, je sais pas, je suis pas capable de trouver les mots, mais c'est fantastique. Mais dis-moi-le, c'est quoi? Puis là, elle aurait dit, notre fille est libérée, guérie. Et moi, j'aurais dit, faut que je le voie pour le croire. Hein? Est-ce possible? Eh oui. Alors, quelques observations du texte. Premièrement, ça nous dit que Jésus quitte la Galilée pour aller en Syro-Phénicie. Pourquoi? Il semble que, selon Marc 7, 24, que Jésus voulait cacher sa présence. Donc, beaucoup pensent que ça brassait pas mal en Palestine, sa popularité était grande, était grandissante même, et puis Jésus voulait simplement un break, une pause. Ça, c'est une explication humaine que je pourrais dire, puis qui est pas mentionnée, mais ça dit quand même que Jésus voulait cacher sa présence, donc il voulait être incognito. Mais moi, je suis un peu comme Jean 4, où Jésus est fatigué, il s'assoit au puits de Jacob, puis fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre une femme samaritaine, et moi, je pense que c'était une fatigue de Dieu, c'était dans le plan de Dieu, ça faisait partie des rendez-vous divins. Ici, c'est un rendez-vous divin. Donc, il y a une raison pourquoi Jésus va là, on pourrait dire humaine, mais il y en a une divine aussi, et je pense qu'il y avait un rendez-vous divin avec cette femme. Mais, de toute façon, il est allé là pour être incognito, et cette femme, elle, d'une façon qu'on ne sait pas encore là, elle surgit de nulle part. Qui est-elle? Et là, on a les différentes références. On l'a lu tantôt. Cananéenne, une païenne originaire de Syro-Phénicie, mère d'une jeune fille que j'ai baptisée Phénicia. Elle a entendu parler de Jésus. Sa fille est possédée d'un esprit un peu sous l'emprise d'un démon. Et on sait qu'elle est cruellement tourmentée. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que cette mère cananéenne avait ouvert la porte à l'ennemi dans sa maison, sans nécessairement le vouloir, mais c'est arrivé quand même. Et c'est arrivé comment? Ben, si on regarde son arrière-plan, toute sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils étaient tous des idolâtres. Donc, toutes ces divinités-là, ils étaient en train d'adorer des faux dieux, et derrière ces idoles-là et ces faux dieux-là, naturellement, il y avait des esprits mauvais. Et des choses arrivaient parfois à cause de ça aussi. Et ils obtenaient aussi certaines faveurs. Mais ce qui était derrière, c'était des esprits mauvais. Et en faisant cela, sans même le vouloir, elle a ouvert la porte à l'ennemi. Regardez les choses horribles que les Cananéens faisaient dans Deutéronome 18, 9 à 12. Je vais lire ici ce que Dieu dit que ces nations font pour que son peuple ne fasse pas ces mêmes choses abominables. Ça dit ceci, « Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Et juste précédemment, les Cananéens étaient nommés dans ces nations qui faisaient ces choses abominables. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Donc, c'était son arrière-plan, et à cause de cela, elle avait ouvert justement la porte à l'ennemi. Mais malgré le fait qu'elle sait qu'elle a un tel arrière-plan, malgré le fait qu'elle sait que son peuple parle les Juifs, donc Jésus est un Juif, elle sait que les Cananéens sont même considérés comme étant des chiens. Ils sont souvent référés par les Juifs comme étant des chiens parce qu'ils sont des païens. Et c'était dur, c'est un langage dur, mais c'était la réalité. Et elle le savait sûrement qu'elle avait cette étiquette sur elle. C'est une païenne. Et elle est exclue des promesses de Dieu, elle est exclue du Dieu d'Israël, et elle est donc impure. Et pour les Juifs, plus tu voulais être près de Dieu, plus tu t'éloignais de ces gens-là, plus tu ne voulais pas être en contact avec ces gens-là. Et encore bien plus si ces personnes-là vivaient dans le péché, ou si ces personnes-là, comme dans son cas, avaient une fille qui était possédée d'un esprit impur, d'un démon. Vous voyez? Elle sait qu'il y a une barrière ici, qu'il y a des préjugés qui devraient l'empêcher de rencontrer Jésus. Parce que Jésus, c'est un homme saint. Jésus, c'est un prophète de Dieu. Jésus, c'est un prophète puissant en œuvre et en parole. Et donc, elle a sûrement cela aussi derrière sa pensée. Et là, on voit la réaction surprenante de Jésus, la façon dont il l'accueille, la première chose qu'il nous est dit, il l'ignore complètement. Comme si elle n'était pas là ou comme si elle était invisible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression d'être complètement ignoré, comme si vous n'existiez pas ou vous étiez un numéro, que si vous n'étiez pas là, ça ne ferait pas de différence pour personne autour de vous, dans votre famille ou ailleurs, ou au travail ou peu importe? Vous êtes un « nobody ». Savez-vous qu'est-ce qui est pire que d'être un « nobody »? Qu'est-ce qui est pire que d'être une personne insignifiante aux yeux des autres, là, je parle? Qu'est-ce qui est pire que d'être monsieur ou madame invisible? Qu'est-ce qui est pire que ça? Hein? D'être rejeté, d'être étiqueté. Comprenez? C'est pire encore, parce que là, t'es pas seulement invisible, mais en plus, t'es un reject. T'es une nuisance. On veut se débarrasser de toi. Si t'étais pas là, ça serait mieux encore. Parce que tu causes le trouble. Parce que ta vie est pas correcte. Parce que tu fréquentes pas les bonnes personnes, ou peu importe la raison. Être une nuisance, c'est pire que d'être un nobody, un inconnu. Voyez-le? Et elle a les deux. Elle est non seulement un nobody, mais en plus, elle est une nuisance. Du moins, pour les Juifs, elle était une nuisance. Pourquoi est-ce que il y avait une telle indifférence de la part de Jésus? Et là, je pense ici qu'on voit à travers la parabole que Jésus utilise, une des raisons pourquoi que Jésus voulait pas s'intéresser à elle, du moins à première vue. C'est cette étiquette à table que la parabole que Jésus donne est en train de refléter. Les enfants d'abord et les petits animaux ensuite. Et dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, ça serait totalement injuste de permettre aux animaux de manger ce qui est sur la table sans avoir nourri les enfants. Maintenant, moi, je me suis posé la question, c'est pourquoi Jésus utilise une telle image avec cette femme? Jésus ne fait jamais rien par accident. Et on voit que Jésus, avec les différentes personnes qu'il rencontrait, agissait tout le temps différemment. Avec la femme samaritaine, il lui a parlé de l'eau, parce qu'elle vivait une grande insatisfaction dans sa vie. Et il lui a parlé ensuite de ses relations amoureuses, et là, il a fait le lien entre les deux. Il connaissait la problématique du cœur de cette femme. Avec le jeune homme riche, il lui a parlé de quoi? Des commandements de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il lui a parlé des commandements de Dieu? De mettre en pratique les commandements de Dieu. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il connaissait la problématique de son cœur. Parce que dans le premier, le plus important des commandements, c'est que Dieu ait la première place dans ta vie. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins, rien d'autre ne peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Rien. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Quand il a demandé au jeune homme, « Mets les commandements de Dieu en pratique », il a répondu, « J'ai fait ça depuis que je suis tout petit. » Réglé. Alors, est-ce que ce jeune homme-là avait une bonne compréhension de son cœur? Est-ce que vous pensez qu'il était un bon juge de ses priorités dans sa vie? Que pour lui, selon lui, il avait fait suffisamment de place à Dieu dans sa vie? C'est ça qu'il est en train de dire à Jésus. Ben, les commandements, pas de problème. Moi, j'ai tout le temps mis ça en pratique. T'as tout le temps mis ça en pratique. OK. Hein, ça dit que Jésus l'aimait, hein? T'as tout le temps mis ça en pratique. OK. Classe 101. Première question. Maintenant, mon grand, tout ce que t'as, ben, tu vas t'en débarrasser. Ben oui, Dieu a la première place dans ma vie, donc ça ne devrait pas être compliqué de te débarrasser de tout. Si Dieu a la première place dans ta vie, il a vraiment la première place dans ta vie. Si, Seigneur, tu me demandes de me débarrasser de tout ça, qu'est-ce qu'il aurait eu dû dire si ça avait été la vérité? Aucun problème, je me débarrasse de tout. Et là, possiblement, Jésus aurait fait comme avec Abraham, quand il est venu pour sacrifier son fils, il l'a arrêté, puis il a dit, « OK, c'est correct, tu n'as pas besoin de faire ça, je sais maintenant que j'ai la première place dans ta vie. » Hein? C'était un test. Et moi, je suis convaincu que c'était probablement un test comme ça avec ce jeune homme riche-là. Il voulait voir la vraie état de son cœur. Du moins, il le savait, Jésus. mais il voulait que ce jeune homme-là en prenne conscience. Et là, ça dit qu'il est reparti, puis il avait le visage triste, abattu. Maintenant, pourquoi ici, cette femme, Jésus utilise cette parabole de l'étiquette à table? Les enfants d'abord, puis les chiens ensuite. Auriez-vous été insulté d'avoir été traité comme un petit chien? Auriez-vous été insulté? Ça aurait peut-être fait des petites quelque chose en dedans. Comment ça tu me fais une comparaison, moi, avec les petits chiens? Quand même, je vaux plus qu'un petit chien, là! Voyons donc! Mais vous rappelez son arrière-plan? Elle est considérée par les Juifs comme des chiens. Et là, ici, je pense que moi, Jésus utilise cette parabole, cette image, pour parler au cœur de cette femme qui vit exactement cet état d'âme-là. Elle se considère elle-même comme un petit chien. Pas plus. Pas moins. Et c'est comme si Jésus, utilisant cette parabole-là, l'invite à entrer dans la parabole. C'est comme si, à travers cette parabole-là, il lui lance un défi, tout comme il l'a fait avec la femme samaritaine en disant « Va chercher ton mari » et bang! Là, on est en train de parler des vraies choses. « Ah, j'ai pas eu de mari. » C'est vrai! Puis même, je vais rajouter, « T'en as eu 5! » Puis celui avec qui t'es, c'est pas ton mari. « Oh! » Comment se fait-tu sais ça, Seigneur? Il ramène la vérité sur la table. Il veut dealer avec ce que cette femme vit, avec la réalité de sa vie. Si tu veux de l'eau vive, il faut que tu me rencontres dans la vérité, dans l'authenticité, dans ce que tu vis vraiment dans le profond de ton cœur. Même chose avec le jeune homme riche. Tu veux me rencontrer? Tu veux avoir la vie éternelle? Bien, il va falloir que tu deals avec les démons qui sont dans ton cœur, avec les vrais enjeux de ton cœur, avec ce avec quoi ton cœur est en train de lutter jour après jour, l'argent, les choses matérielles. Moi, je le sais, toi, tu le sais pas, mais il faut que je l'emmène, parce que Jésus, il fonctionne dans l'authenticité, dans la vérité. Il doit exposer nos cœurs au grand jour. Et tant aussi longtemps que nos cœurs ne sont pas exposés au grand jour, on ne peut pas le rencontrer. Mais à chaque fois que Jésus fait ça, il nous lance toujours un défi. Il y a une invitation à le rencontrer. À le rencontrer là où ça fait mal. Là où on est en train de vraiment lutter. Là où nos cœurs sont en train d'être dominés par autre chose que Dieu lui-même. Et là, il veut nous libérer. Et c'est ce qu'il a fait avec cette femme. En lui donnant cette parabole, il l'invite à interagir avec elle. Alors, Jésus utilise cette image pour parler au cœur de cette femme et répondre à son besoin en lui ouvrant une porte et lui permettant de répondre à son invitation. Et là, la femme réplique avec la bonne attitude et les bonnes paroles. Pourquoi? Bien, elle se sait indigne de s'approcher de Jésus. Elle ne devrait pas être là puisqu'elle est une païenne et qu'elle est considérée comme une chienne. Et elle n'a pas accès à Dieu. Et en plus, sa fille est possédée d'un démon, ce qui fait comme un deuxième problème. Mais elle réplique en disant à Jésus, « Sans doute, Seigneur, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Vous savez, elle parle avec son cœur de mère. Et elle est prête à recevoir les miettes qui sont destinées aux chiots pour que sa fille puisse être libérée de l'emprise de l'ennemi. Et c'est là qu'on voit le cœur de cette femme qui est humble, qui lutte pas avec Jésus, qui reconnaît qu'elle a des problèmes dans sa vie, qui reconnaît qu'elle devrait pas avoir accès à Jésus, qui reconnaît qu'elle devrait pas avoir une réponse à sa requête, mais en même temps, elle vient avec détermination et elle vient avec une certitude qu'il y a une possibilité que Jésus puisse lui accorder ce qu'elle demande. Et là, on voit le cœur de cette femme. Et dans un sens, on voit aussi sa foi. Et c'est pour ça que Jésus va le souligner plus tard. La réponse finale de Jésus. Comment va-t-il réagir cette fois-ci? Et là, on voit les textes dans Matthieu et dans Marc. Il dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. À cause de cette parole, va, retourne chez toi. Le démon vient de sortir de ta fille. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti et avec le diable. Fantastique. Pourquoi est-ce que Jésus dit que cette femme, sa foi, elle était grande? Et savez-vous le mot qui est là pour grande? C'est le mot qu'on connaît qui est méga. La foi de cette femme, elle est méga. Et il y a juste une autre fois où c'est mentionné d'une personne que sa foi était méga. Savez-vous c'est qui? Le centurion romain. Imaginez-vous l'ironie ici, dans deux occasions, c'est deux personnes qui ne sont pas religieuses, qui ne font pas partie de l'héritage juif, avec tout ce qui venait avec, qui connaissaient l'Éternel, qui avaient toute cette histoire riche de comment Dieu s'était manifesté et est intervenu. Elle n'a pas cet arrière-plan, tout comme le centurion romain. Et pourtant, les deux, Jésus dit que leur foi était grande. Pourquoi est-ce que sa foi était grande à elle? Il y a deux choses au moins que je vois. Pourquoi Jésus dit que sa foi est grande? Regardez la première. Sa foi est fondée sur peu de connaissances de la vérité. C'est pour ça qu'elle est grande. Elle n'a pas beaucoup de connaissances, mais la connaissance qu'elle a, Seigneur, fils de David, elle sait que Jésus est un prophète puissant en œuvre et en parole, et c'est suffisant pour elle pour qu'elle vienne à Jésus, qu'elle soit aussi insistante qu'elle l'a été, qu'elle soit en train de lutter avec Dieu pour qu'il puisse visiter sa famille et libérer sa fille. Et elle ne lâche pas, malgré les obstacles, malgré les préjugés, malgré tout ce qui va contre elle. Elle se bat pour sa famille avec si peu de connaissance de la vérité. N'est-ce pas fantastique? Et l'autre élément, c'est que sa foi est fondée sur le bon fondement, l'Évangile. Un accès gratuit à la grâce de Dieu. S'il y a une personne qui ne méritait pas quelque chose de Dieu, c'était elle. Mais mériter quelque chose de Dieu, ce n'est pas la grâce. Et c'est ça que son histoire à cette femme nous montre. C'est une femme qui est allée chercher la grâce que Dieu était prête à lui offrir. Et elle a saisi cette invitation de Jésus et elle a accepté son défi. Et c'est pour ça que sa foi était grande. Regardez ce qu'un auteur a écrit, et c'est très intéressant, et je termine avec ça. James Edwards a dit ceci de cette femme. Il dit, « Cette femme a l'air de comprendre mieux qu'Israël pourquoi le Messie est venu. En une phrase ou une image, elle comprend la mission divine de Jésus et reçoit ses éloges. Comment est-ce possible? La réponse est que cette femme est la première personne dans l'Évangile de Marc à comprendre une parabole de Jésus. Imaginez-vous, même les disciples avaient de la misère à comprendre les paraboles de Jésus. Puis elle la comprend, boum, du premier coup. Exceptionnel. Le fait qu'elle réponde même de l'intérieur de la parabole, c'est-à-dire avec les mêmes termes que Jésus a employés, indique qu'elle est la première personne à entendre la voix de Jésus. Vous vous rappelez? Entendre la voix de Jésus, c'est saisir et comprendre le sens christologique et rédempteur de la venue de Jésus sur terre. Elle a compris ça. Et c'est pour ça qu'elle a pu recevoir la grâce de Dieu. Quelle ironie! Les Juifs et les disciples de Jésus sont sourds et hermétiques à son message. Mais elle, en une seule rencontre, elle comprend tout et obtient plus que ce qu'elle est venue chercher. Non seulement elle obtient le miracle, mais en plus elle obtient son salut. Martin Luther a dit ceci, « Nous sommes pires que nous ne l'aurions jamais pu l'imaginer. » Et en même temps, nous sommes plus acceptés et aimés que nous n'aurions jamais osé l'espérer. Ça, c'est l'Évangile. Et Phénicia a reconnu sa condition indigne et elle a accepté le défi de Jésus de lui faire totalement confiance. Maintenant, être une personne d'exception revient à quoi? Qu'est-ce qui fait d'une personne, d'une maman, d'un homme, une personne d'exception? Une seule chose. Hein? C'est pas d'avoir fait des grandes choses, c'est pas d'avoir de grandes connaissances, mais c'est vraiment comme elle, d'entrer en relation par pure grâce avec Jésus, la seule vraie personne d'exception. C'est ça, être une personne d'exception, c'est connaître Jésus, c'est être en relation personnelle avec Jésus. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé sur la croix? Tu peux venir, Anne-Marie. Je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé sur la croix? Imaginez-vous ce qui s'est passé sur la croix. Jésus, il s'est entièrement identifié à elle et à chacun de nous. C'est ça qui s'est passé sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, lui, le Saint, il s'est identifié à elle et à nous sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il s'est identifié à nous et à elle? Regardez, le Fils de Dieu a été humilié, il a été jeté à l'extérieur de la maison, il a été exclu de la table et même des miettes qui tombaient sur la table, sous la table. Il n'avait même pas accès aux miettes qui tombaient sous la table, sur la croix. Parce que là, il recevait nos péchés. Il recevait les péchés de Phénicia. Et savez-vous ce qui s'est passé? C'est que Jésus s'est fait chien. Il a été traité comme un chien, comme un brigand, comme un voleur, comme une personne indigne. C'est comme ça que Jésus était traité pour que nous, on devienne des fils et des filles de Dieu, des enfants à part entière, dans la famille royale de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que Jésus est pour nous. C'est ce que Jésus veut être pour chacun de vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci ce matin de cette femme, de son témoignage, de son cœur, de la façon que tu as su l'accueillir malgré le fait qu'elle n'aurait pas dû être accueillie par toi. Mais en fait, elle est une image parfaite de comment la grâce nous donne accès à toi, Seigneur Jésus. Comment toi, maintenant, tu nous invites chacun de nous à venir à toi et à te rencontrer. Ô Seigneur, fais de nous des femmes et des hommes d'exception. Fais que nous puissions venir à toi, que nous puissions combattre pour nos familles, pour nos enfants. Et qu'à travers ça, Seigneur, tu sois glorifié. Fais-nous goûter davantage à ta grâce. Et qu'à travers ça, nos vies soient transformées. Merci Jésus d'être là. Merci de ta grandeur et de ton amour envers nous. Amen.